Merci beaucoup, Monsieur le coordinateur. Je vous remercie tout d'abord d'avoir bien voulu accepter ces fonctions. Je vous félicite pour votre nomination et vous pouvez bien entendu compter sur le plein soutien de ma délégation pour nos travaux. Ma délégation s'aligne par ailleurs sur la déclaration qui sera prononcée par l'Union européenne, mais je voudrais faire quelques remarques à titre national. Alors, le seul mandat dont dispose actuellement la conférence du désarmement, c'est celui portant sur la négociation d'un traité interdisant la production de matières fissiles pour les armes nucléaires. Le mandat, comme tout le monde le sait, contenu dans le rapport Shannon de 1995, CD 1299. Nous espérons donc que les discussions organisées au sein de cet organe subsidiaire, notamment dans la perspective de la reconduction de notre programme de travail en 2025, permettront d'aboutir au lancement effectif de ces négociations. Pour maintenir l'attention de la conférence du désarmement sur ce sujet et avancer sur une compréhension commune, la France, en sa qualité de présidente de la conférence du désarmement, avait organisé une réunion plénière le 13 juin 2023 avec un panel qui avait permis de revenir sur les travaux conduits dans le cadre du groupe d'experts gouvernementaux, le GGE, et du groupe préparatoire d'experts de haut niveau, le HLEPG, pour son sigle anglophone. Nous souhaitons donc que l'organe subsidiaire puisse s'appuyer sur ces travaux. Sans attendre le lancement des négociations sur un traité d'interdiction de production de matières fissiles pour les armes, la France s'est engagée de manière concrète et constante depuis 30 ans en réalisant, pour ce qui la concerne, les objectifs visés par le traité. Et je souhaiterais donc, brièvement dans cette intervention, revenir sur les efforts français, à la fois le moratoire et le démantèlement des installations de production de matières fissiles correspondantes, pour expliquer ce que cela a représenté concrètement, et ensuite en tirer quelques enseignements immédiats pour nos travaux. Alors la France est le premier et le seul État à avoir décidé la fermeture et le démantèlement de ses installations de production de matières fissiles à des fins explosives. Elle a cessé de produire des matières fissiles pour ses armes nucléaires en 1992, s'agissant du plutonium, et en 1996, s'agissant de l'uranium hautement enrichi. Et concomitamment, le 22 février 1996, elle a annoncé un moratoire sur la production de ces matières. Nous appelons bien entendu tous les États dotés à faire de même. L'arrêt de la production a concerné deux séries d'installations de production. D'abord, l'usine d'enrichissement de Pierrelatte, qui était une usine d'enrichissement par diffusion gazeuse pour l'uranium hautement enrichi, et d'autre part, les usines situées à Marcoule pour le plutonium. Le programme de démantèlement a été immédiatement lancé après la décision d'arrêter la production. Et les opérations de démantèlement de ces installations, donc de Pierrelatte et Marcoule, ont aujourd'hui atteint un stade irréversible. Cela représente un engagement considérable en matière, donc à la fois un engagement financier de l'ordre de 10 milliards d'euros pour le démantèlement de l'usine UP1 de Marcoule et 1 milliard pour Pierrelatte. C'est aussi un défi en termes de mise en œuvre et de savoir-faire. Et donc, je voudrais juste donner quelques détails, sans aller trop dans les précisions, mais par manque de temps, mais pour que l'on puisse prendre l'ampleur de ce que cela représente. À Pierrelatte, le démantèlement a demandé 6 ans de préparation. Les travaux ont donc été conduits entre 2002 et 2010. Et ils sont achevés. À Marcoule, les travaux d'assainissement et de démantèlement sont particulièrement complexes parce qu'on a une présence de produits de fission. Les travaux effectués depuis 1997 ont permis de retirer 100% des matières fissiles. Ont également été démantelés dans cette usine de retraitement UP1 l'ensemble des équipements des ateliers qui assuraient la réception, l'entreposage et la préparation des combustibles pour leur retraitement. Ont également été démantelées les lignes d'extraction des produits de fission depuis 2013. Les équipements de séparation de l'uranium et du plutonium, quant à eux, ont été démantelés dès 2010 et ils ont atteint maintenant un stade d'irréversibilité. Le démantèlement de la partie à haute activité radiologique de l'usine sera terminé à l'horizon 2050. Donc tout ceci simplement pour donner la mesure de l'effort que cela représente. Au total, les opérations hors installation de support concernent un millier de salles et représentent près de 30 000 tonnes de déchets. En mars 2008, le président de la République a annoncé des mesures de transparence sur tous les efforts qui étaient conduits par la France. Et donc, depuis cette date, on organise régulièrement des visites pour des experts internationaux, des journalistes, think tanks, diplomates. Et dans le cadre de la réunion du traité sur la non-prolifération, la semaine dernière, nous avions organisé un événement parallèle qui permettait de revenir sur une visite d'ambassadeurs auprès de la conférence du désarmement qui s'était tenue en juin 2023. Alors, je souhaite maintenant en revenir sur les leçons que nous pouvons en tirer pour nos travaux sur le FMCT. C'est une mesure concrète, réaliste, dans le cadre d'une approche progressive et pragmatique vers le désarmement nucléaire. C'est aussi, comme d'autres l'ont dit avant moi, une mesure urgente dans le contexte actuel. Le risque auquel nous faisons face dans les prochaines années est celui d'un retour de la course aux armements nucléaires et d'une prolifération non contrôlée. Or, il est évident que la production de matière constitue une étape cruciale pour la constitution et l'accroissement quantitatif des arsenaux, alors que certains États dotés sont engagés dans une dynamique d'expansion de leur arsenal sans précédent. Il s'agit d'autre part d'une mesure étudiée de longue date, très documentée, et je rappelle que la France a déposé un projet de traité en 2015 et les États-Unis en 2006. Laissez-moi rappeler enfin l'engagement sans faille de mon pays en faveur du lancement immédiat de négociations sur la base du mandat Shannon et d'ici là l'appel au respect et au maintien d'un moratoire sur la production de matières fissiles. Fixer des conditions préalables au lancement de négociations, comme l'inclusion des stocks, ne fait que retarder le lancement de telles négociations. Faire avancer le FMCT est une responsabilité collective. Monsieur le coordinateur, vous pourrez donc compter sur le plein engagement de ma délégation pour contribuer au succès de nos travaux. Je vous remercie également des efforts que vous pourrez faire pour assurer la continuité des travaux entre 2024 et 2025 en tenant pleinement compte du mandat déjà agréé par cette conférence sur le FMCT. Merci beaucoup.